D'autres aristocrates ont une place particulière. Ainsi, Madeleine de Villeparisis, petite fille de Florimond de Villeparisis, nièce de la fameuse duchesse de. La personne la plus célèbre de la grande aristocratie pendant la monarchie de Juillet, mais qui n'avait pas voulu fréquenter le roi citoyen et sa famille. Tante de la duchesse de Guermantes. Si l'on en croit Madame Sazerat quand elle n'était que Mademoiselle de Bouillon, c'était en première noce la duchesse d'Avray, belle comme un ange, méchante comme un démon, qui a rendu fou son père, l'a ruiné et abandonné aussitôt après. Maîtresse de Monsieur de Norpois. Sa sœur, Marie Sostène de Beausergent, sœur également de la princesse de Hanovre, Madame d'Asfeld, trompée par son mari dès le lendemain du mariage, belle-sœur de Charlus et de Madame de Marsante, cousine de la marquise de Gaillardon, nièce de Madame de Villeparisis, tante de Saint-Loup. Si l'on entrait dans le monde de la bourgeoisie, ce n'était guère plus simple. Avec d'abord Charles Swann, petit-fils d'une protestante mariée à un juif, qui a été la maîtresse du duc de Berry, neveu de Lady Israël, l'épouse de Sir Rufus Israël, le plus puissant des grands juifs, surnommé le cousin bête par des cousines, membre du Jockey Club, du Cercle de l'Union et du Cercle agricole, ex-membre du Cercle de la Rue Royale où il a côtoyé Galifée, Edmond Polignac et Saint-Maurice. Ensuite, Odette de Crécy, mariée à Pierre de Verjus, comte de Crécy. Une lettre anonyme disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, parmi lesquels Forcheville, M. de Bréauté, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Ne disait-on pas que c'était par sa propre mère qu'elle avait été livrée presque enfant à Nice à un riche Anglais? A été Miss Sacripant, peinte en 1872 par Elstir, qui aurait été son amant. Cocotte illettrée pour le faubourg Saint-Germain. Au confluent des deux classes, les Cambremères, Madame de était née Le Grandin. Son mari, Monsieur de Cambremer, expliquait « Nous portons d'or à trois faces bretéchées et contre-bretéchées de gueules à cinq pièces chacune, chargées d'un trèfle d'or. » Mais aussi, il disait « Mon arrière-grand-mère était une d'Arachepelle ou de Rachepelle. Au XIe siècle, le premier Arachepelle massé, dit Pellevilain, avait montré une habileté particulière dans les sièges pour arracher les pieux, d'où le surnom d'Arachepelle sous lequel il fut anobli. » Une des quatre baronnies de Bretagne, parent de Monsieur de Chevrigny, frère de Madame de Gaucourt, qui a eu des étouffements comme le héros. Déjà pas simple, il ne s'agissait là que de leur situation à l'entrée dans l'œuvre. Mais à la sortie, ce sera beaucoup plus compliqué. Le prince de Guermantes, veuf et ruiné, finit remarié avec Odette Verdurin, qui, mariée à Charles Swann, puis au baron de Forcheville, ne trompe pas moins le prince. De son côté, Swann, marié à Odette, a une liaison avec sa belle-sœur, avec Madame de Cambremer et avec une femme qui servait le thé chez Madame Colombin, où Madame Swann avait cru quelque temps qu'il était chic d'aller. Ses tromperies, ses coucheries restaient dans le domaine classique. Avec certains personnages, on entrait dans le monde interlope des invertis, réels ou supposés, où l'on comptait plus d'un mari dont on aurait juré qu'il n'aimait que les femmes. Le baron de Charlus, monsieur de Vaugoubert, qui cite une petite télégraphiste, un livreur des galeries Lafayette, le directeur des affaires commerciales, le duc de Sigonia, le roi Théodose, monsieur Nissim Bernard, il entretient un commis du grand hôtel qu'il trompe avec un garçon de ferme, deux ducs, un général éminent, un grand écrivain, un grand médecin, un grand avocat, le prince de Guermantes, le jeune duc de Châtellerault. Il a une aventure avec un huissier de la princesse de Guermantes. Le Grandin, le tsar de Bulgarie, une coquine selon Charus. Robert de Saint-Loup, amant de Morel et client de l'hôtel de Jupien. Le petit Combremer, le vicomte de Courvoisier, monsieur d'Argencourt, sans lettres. Il vit entouré d'un verti. Le docteur Cottard, selon Charlus, qui se trompe. L'ambassadeur de X en France, mais encore un député de l'ancien de l'Action libérale, le grand-duc de Russie, le vicomte de Courvoisier, plus un prêtre client de l'hôtel de Jupien. Il fallait enfin compter avec la nouvelle génération. Gilberte de Saint-Loup, fille de Charles et Odette Swann, devenue mademoiselle de Forcheville, puis marquise de Saint-Loup, puis duchesse de Guermantes. Gilbert et Robert ont une fille, qui épousera un obscur homme de lettres. Léonore de Cambremer, mariée lui à Marie-Antoinette, la nièce de Jupien, devenue mademoiselle d'Oloron, titre donné par M. de Charlus quand il l'adopta, et marquise de Cambremer. La jeune femme attrapera la fièvre typhoïde le jour du mariage religieux et mourra quelques semaines après. Et quand on parlait de la duchesse, c'était au début Oriane de Guermantes et à la fin Gilberte. Pareil pour la princesse, au début Marie-Edwige et à la fin Madame Verdurin. Au passage, Fabrice releva, distraction de l'auteur, que la Berma a un fils et une belle-fille, qui se transforme quelques pages plus loin en une fille et un gendre. Fabrice s'astreignait à dessiner les branches des arbres généalogiques des protagonistes susceptibles de se croiser, voire de se chevaucher. Il devait s'appliquer de même à démêler la trouble sexualité du héros, à celui-là. Ce n'est pas qu'il fût un inverti, comme il appelait les sodomites, mais il fallait séparer la réalité des souhaits sexuels, comme des vantardises. Que signifiait réellement faire l'amour, posséder, être l'amant, union charnelle pour un adolescent? Mais pas seulement. Allant croire il connaît pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de ses petites cousines. Sur un canapé chez tante Léonie, mais il n'est alors qu'un enfant. Suivent les caresses, des attouchements, des unions que Fabrice, au demeurant Forbegel, essayait d'imaginer, et in fine qu'il n'arrivait pas à visualiser comme deux corps s'unissant. À s'en tenir au texte, les actes s'achevaient avant, soit que le héros eût joui précocement, soit qu'il se fût agi de fellation ou de jeu, qui, sans être innocent, n'allait jamais jusqu'à leur terme, même s'il comptabilisait 13 jeunes filles, 14 avec Albertine, lui accordant, comme il disait, leur frêle faveur. Fabrice avait le sentiment, en lisant et relisant Proust, que plus il parlait d'amour, moins il le faisait, et qu'il y avait moins de femmes possédées que désirées. Après ces arbres généalogiques, après ces fredaines et polissonneries, Fabrice se familiarisa avec le petit noyau Verdurin, constitué à la base de Brichot, Cottard, Viradobetsky, Sagnette, le jeune pianiste et sa tante Odette enfin. Et avec la petite bande de Balbec, ces jeunes filles en fleurs que sont Albertine, André, Gisèle, Rosemonde, la dernière étant sans prénom connu.